entamons la deuxième partie de la deuxième table ronde de notre journée consacrée à la démocratie, histoire, combats et critiques. Il y a, comme on vous l'a dit, un changement à notre programme, puisque vont s'adresser à vous Madame Sylvie Mesure à propos de la lecture de Marx par Raymond Aron, puis Monsieur Jean-Claude Monnet à propos de démocratie, charisme et représentation, et Monsieur Marc Crépon à propos de démocratie et démophobie, le peuple ennemi de la démocratie, puisque Monsieur Daniel Cohen étant retenu, n'a pas pu participer à notre table ronde. Alors je donne tout de suite, comme nous sommes un peu en retard, je donne tout de suite la parole à Madame Sylvie Mesure.
J'aurais pu appeler mon exposé le marxisme de Raymond Aron. Je vais limiter mon analyse ici pour appréhender la lecture aronienne de Marx. Je vais limiter mon analyse au marxisme de Marx, d'une part parce qu'il s'agit d'un texte inédit publié en 2002 sous la direction de Jean-Claude Casanova, en collaboration avec Christian Bachelier, dont je voudrais saluer ici vraiment le beau travail d'édition. Alors, comme vous le savez, le marxisme de Marx, c'est un ouvrage issu d'un cours d'agrégation professé par Raymond Aron à la Sorbonne durant l'année 1962-1963. C'est un cours qui a été complété pour le chapitre 10 par des éléments du cours donné au Collège de France en 1977. Pour avoir à moi-même édité les leçons sur l'histoire à partir des manuscrits que Raymond Aron avait rédigés aussi pour des cours du Collège de France, il me semblait nécessaire ici de saluer le grand et patient travail de reconstitution et d'annotation de Jean-Claude Casanova, encore une fois, et de Christian Bachelier, grâce auquel nous pouvons bénéficier aujourd'hui de la clarté, de la sûreté d'analyse du grand professeur que fut Raymond Aron sur un des sujets qui l'a préoccupé toute sa vie. D'autre part, le choix de restreindre mon analyse au marxisme de Marx se justifie en ce que ce texte constitue l'une des premières esquisses de ce qui aurait constitué, à en croire la belle préface du volume, de ce qui aurait constitué le grand livre de Raymond Aron sur Marx. Alors, les circonstances ont fait que nous ne disposons pas aujourd'hui de ce dernier grand ouvrage, dont Aron lui-même estimait à la fin de sa vie qu'il ne semblait pas lui être une perte, que ça ne semblait pas être une perte de ne pas l'avoir rédigé, même à ses yeux. On peut ne pas être d'accord avec Raymond Aron sur ce point, c'est un petit luxe qu'on peut se permettre, mais l'interprète n'est pas pour autant livré à un délire interprétatif, tant il dispose d'éléments, en fait, permettant de reconstituer en creux, à partir des différents éléments laissés par Raymond Aron, de reconstituer en creux les grandes lignes de ce qu'aurait pu être son interprétation finale du marxisme. Raymond Aron lui-même en avait d'ailleurs énoncé clairement le projet dans ses mémoires, où il écrit, je cite, « Dégager l'essentiel des spéculations philosophiques du jeune Marx, saisir les grandes lignes de l'économie telles qu'il la présente dans la critique et le capital, tirer de ces deux parties les divers Marx possibles et les caractéristiques du révolutionnaire prophète. » Alors, à un autre endroit, toujours dans les mémoires, j'adore citer Raymond Aron, il précise qu'il se serait agi de présenter, au lieu des exposés sommaires de la pensée marxiste, au lieu des polémiques contre les marxismes parisiens, une analyse synthétique, non de la pensée marxiste, mais des diverses tendances de cette pensée, origine des mouvements historiques qui se réclament d'elle. Alors, à cet égard, le volume paru sous le titre du marxisme de Marx constitue bien l'une des esquisses du grand ouvrage absent, puisque dès les premières pages de l'ouvrage, Raymond Aron décrit son projet comme étant celui d'une étude scientifique, c'est-à-dire à la fois pour lui philosophique et historique de la pensée de Marx. Et il précise d'emblée, dès le début de son ouvrage, qu'il ne s'agit pas pour lui de prétendre énoncer la vérité de Marx, mais d'en proposer une interprétation solide, une interprétation argumentée, capable à la fois de rendre compte de la complexité d'une pensée et de rendre intelligible également la pluralité des niveaux d'analyse et des interprétations qui en furent données. Alors, comme on le voit, la question du marxisme a continué d'intéresser Raymond Aron jusqu'à la fin de sa vie, puisque même au moment d'écrire les mémoires, il se demandait si, au lieu d'écrire les mémoires, il devait consacrer le temps qu'il avait pour rédiger son grand livre sur Marx. Mais cette confrontation avec Marx a en fait été initiée dès le début des années 30, depuis l'introduction à la philosophie de l'histoire. Dans ses mémoires, Aron écrit à propos de son appréhension du marxisme, dans les années 30 donc, deux questions commandaient ma lecture. L'une plutôt économique, la pensée marxiste nous aide-t-elle à penser la crise ? L'autre plus philosophique, le marxisme de Marx, en tant que philosophie de l'histoire, nous libère-t-il de la charge lourde mais constitutive de notre humanité, de choisir entre les différents partis. Et il poursuit, si l'avenir est déjà écrit, inévitable et salvateur, seuls refuseront son avènement des hommes aveugles ou prisonniers de leur intérêt particulier. Dans l'interprétation courante du marxisme, c'était la philosophie de l'histoire qui me tentait et me rebutait tout à la fois. Comme on le voit ici, l'interrogation est une interrogation de nature presque quasiment existentielle, alors que dans le cours de la Sorbonne, il s'agit de soumettre la pensée de Marx à une analyse scientifique. Lors de sa soutenance de thèse, le jeune Aron affirmait en effet « En 1930, je pris la décision d'étudier le marxisme pour soumettre à une révision philosophique mes idées politiques. Une étude que l'on doit comprendre, précisait-il, au sens d'une réflexion sur la philosophie marxiste de l'histoire, héritière de Hegel. » Alors, on connaît la critique vraiment impitoyable que Raymond Aron fit subir à la philosophie marxiste de l'histoire, qui sera dénoncée aussi bien dans l'introduction que dans la philosophie critique de l'histoire comme une métaphysique prétendant énoncer scientifiquement les lois du devenir humain, et qu'il interprétera dans l'opium des intellectuels comme une religion séculière. Alors, ce qu'il combattait dans l'introduction de la philosophie de l'histoire, et ce qu'il combattait vraiment énergiquement, en mettant en évidence les limites de la connaissance historique, c'était l'idée que l'histoire obéirait à une nécessité de faire. C'était la thèse du déterminisme historique, un déterminisme historique impossible à fonder scientifiquement, et incompatible à ses yeux avec toute idée de choix et de décision, toute idée de liberté et de responsabilité dans l'histoire. Ce qu'il mettait en lumière dans l'introduction à la philosophie de l'histoire, c'était aussi l'impossibilité d'isoler un facteur déterminant, fût-il économique, capable de rendre compte et d'expliquer l'ensemble d'une société. A contrario, il défendait l'idée que notre finitude essentielle de sujets engagés dans l'histoire ne nous permettait pas de faire l'économie de la décision, du choix, de l'engagement fondé en raison, mais non scientifiquement validé. Aucune science ne nous délivre de l'histoire et de la nécessité du choix, de l'histoire. Tel est le constat du jeune Aron dans ce qu'il appelle sa version personnelle de la critique de la raison historique. Dans ses mémoires, il écrit d'ailleurs à propos, et je voulais dire simplement que cette nécessité du choix, de l'engagement, qui s'est créée à partir de la confrontation avec la philosophie marxiste de l'histoire dans l'introduction, va destiner, à mon sens, une structure intellectuelle et une ossature théorique qui sera celle de toute sa vie. Dans ses mémoires, il écrit à propos de l'introduction, « Le livre tout entier éclairait le mode de pensée politique qui fut depuis le mien, et le reste à l'automne de ma vie. Dans un style quelque peu scolastique, je distinguais trois étapes, le choix, la décision, la recherche de la vérité. » Alors, pour ma part, j'estime que dès 1938, Raymond Aron possède des schèmes interprétatifs de la pensée de Marx qui, s'il s'affine et se complexifie par la suite, ne varieront pas. Quels sont ces schèmes interprétatifs ? Critique d'une science de l'histoire et du millénarisme qui lui est consubstantielle, critique de l'économisme et par revalorisation et revalorisation du politique, critique du révolutionnarisme, dénonciation d'une pensée qui prétend articuler connaissance des lois de l'histoire et activisme militant, et mise en évidence que la figure du Marx prophète peut se laisser déduire à partir de la structure théorique même du marxisme. Tonnies, quant à lui, estimait que l'espoir placé par Marx dans l'arrivée du communisme, dans l'arrivée imminente d'une révolution qui délivrerait à l'humanité ses chaînes et marquerait la fin de la préhistoire, que cela ne relevait pas de la logique même de l'œuvre, mais plutôt de la pathologie ou de la psychologie de l'homme Marx. Au contraire, Raymond Aron voit dans l'impossible conciliation entre déterminisme et liberté la clé de ce qui constitue la nature problématique du marxisme. Et ce qui explique aussi son immense pouvoir de séduction, aussi également aussi peut-être que ses effets pervers. Dans le marxisme de Marx, Raymond affirme en effet « Je serais tenté de dire que toutes les discussions philosophiques sur le marxisme ont tourné autour de ce point central, celui de la relation entre la théorie et la pratique, entre la nécessité historique et l'action humaine, entre la nécessité tout court et la liberté, entre la réalité et la pensée. Autour de ce thème se cristallisent, pour ainsi dire, tous les paradoxes, toutes les contradictions, toutes les difficultés d'une philosophie de l'histoire qui tout à la fois annonce un devenir nécessaire et incite à l'action révolutionnaire. Là se trouve pour moi, disait-il, le centre philosophique de la pensée de Marx, son caractère fascinant et ses difficultés aussi. » Alors, sur le principe de cette critique énoncée dès 1938, Aron ne reviendra pas et on la trouve donc encore déployé dans les cours de la Sorbonne, dans toute sa force argumentative. Il ne s'agit cependant pas, dans les cours de la Sorbonne, d'une quête existentielle, d'un jeune homme cherchant à savoir comment fonder ses jugements politiques sur une connaissance solide, comment s'engager de façon certaine dans l'action. Dans les cours, c'est le professeur Aron qui entre en scène, interrogeant le texte, soulevant les problèmes de traduction, débusquant les mésinterprétations de la pensée de Marx et accompagnant le chemin de réflexion de son auditoire. Le ton est posé donc dans les cours, le projet est celui d'une analyse scientifique de la pensée de Marx. Alors cette analyse scientifique, Raymond Aron l'a définie comme une analyse historique et philosophique, comme je l'ai indiqué, de la pensée de Marx. Une analyse qui se trouve précédée dans les cours par l'énonciation de règles de méthode qui relèvent toutes, aux yeux de Raymond Aron, d'une éthique interprétative. C'est sur la logique de ces principes interprétatifs mobilisés par Raymond Aron que je voudrais m'interroger ici, plutôt que sur le détail de l'analyse des cours et auquel je renvoie au texte pour ce détail, l'analyse de ce détail. Je vais analyser le premier principe interprétatif mobilisé par Aron. Tout d'abord, analyser scientifiquement la pensée de Marx. Ce n'est pas pour Raymond Aron faire dire à Marx ce qu'il penserait de l'époque présente. Ce n'est pas se pencher sur sa postérité. C'est encore moins fabriquer un Marx fictif à partir d'une systématisation abusive. Un geste qu'il dénoncera, comme on sait, dans les marxismes imaginaires, à propos du marxisme existentialisé de Sartre et celui structuralisé d'Althusser. Pour analyser scientifiquement la pensée de Marx, je cite Aron, « Il faut commencer par reconnaître que la situation dans laquelle Marx a réfléchi est fondamentalement différente de la situation dans laquelle nous réfléchissons. quiconque dit que Marx penserait ceci ou cela émet une hypothèse plus révélatrice de lui-même que de Marx. De même, dès le début de son cours, Aron définit son projet comme étant celui de donner une contribution honnête à une question scientifique. Quelle a été la pensée de Marx au siècle dernier, et non pas que doit-on penser pour agir au siècle actuel. Analyser scientifiquement la pensée de Marx, c'est, pour le dire positivement cette fois-ci, procéder, comme on l'a déjà souligné, à une analyse historique et philosophique de cette pensée, mais c'est aussi être conscient de la nature du discours que l'on énonce. C'est être conscient qu'il s'agit là de proposer précisément une interprétation. Comme le soulignerait Moiron, nul ne peut dire avec certitude ce qu'a vraiment pensé Marx, ce qui crée pour l'historien à la fois une difficulté et un charme, et ce qui pose à l'interprète une sorte de défi interprétatif. Aron affirme d'ailleurs dans le cours qu'il lui semble qu'il n'y a pas de doctrine qui soit aussi grandiose dans l'équivoque, aussi équivoque dans la grandeur. C'est pourquoi, ajoute-t-il, je lui ai consacré un bon nombre d'heures sans être allé jusqu'au bout. Interroger la pensée de Marx et tenter donc d'en produire une interprétation, c'est aux yeux de Raymond Aron, comme pour tout interprète digne de ce nom, retrouver derrière la multiplicité des écrits et des périodes l'intention sous-jacente de l'auteur, le sens qu'il donnait à son œuvre, le projet qu'il se fixait. C'est en un mot essayer de comprendre un auteur comme il s'est compris lui-même. À cet égard, le programme interprétatif aronien est limpide, et le cours est d'ailleurs scandé par ce précepte de méthode. Dès le début du cours, il s'agit de procéder de bonne foi et de bonne volonté. Plus loin, il faut s'interroger sur ce que Marx, entre 1835 et 1883, a pensé et voulu dire. Ailleurs encore, il faut faire confiance à l'auteur et le prendre au mot. Quand on interroge la pensée d'un auteur, affirme encore Raymond Aron, je ne vois pas de raison, quand il s'agit d'un auteur de la taille de Marx, de ne pas le croire sur parole. Or, croire Marx sur parole, c'est pour Raymond Aron voir surtout en lui l'auteur du Capital. L'auteur qui a voulu et tenté de décrire scientifiquement les lois de fonctionnement et de dépérissement du capitalisme. Comparant Marx à Proust, Aron n'hésite pas à dire que Marx, comme Proust, est l'auteur d'un livre unique. En tant que savant, je dirais que de 1849 à sa mort en 1883, Marx a travaillé un livre unique. Si la comparaison me paraissait, justement à beaucoup d'égards, surprenante, je dirais qu'en tant qu'auteur génial, Marx ressemble à Proust. Il est l'homme d'un livre unique. La comparaison ne vaut, je l'empresse de l'ajouter, que sur ce point particulier. L'un et l'autre ont porté toute leur vie un livre unique qu'ils n'ont terminé ni l'un ni l'autre. Encore un autre principe interprétatif. Comprendre Marx comme il s'est compris lui-même, c'est-à-dire comme l'auteur du Capital, c'est retracer dans un premier temps l'itinéraire de l'aventure intellectuelle qui a conduit Marx au Marx de la maturité, et c'est interpréter le passage qui mène du Marx philosophe au Marx sociologue et économiste, pour ensuite, dans un second temps, aborder et évaluer la grande œuvre de Marx que fut le Capital. Dès lors, la question qui va se poser pour l'interprète est celle de savoir comment articuler les deux parties de l'œuvre de Marx, de savoir comment, après avoir assimilé, critiqué et rejeté le système hegélien, ce que certains appellent dans un livre récent la machine Marx, s'est ensuite imprégné de la pensée économique classique dans le but d'élaborer une critique de l'économie politique. Raymond Aron y voit le débat marxologique central auquel son cours tente d'apporter une réponse. Concernant l'œuvre de Marx, précise-t-il, un certain nombre de questions fondamentales se posent. La plus générale est de savoir quel rapport existe entre le jeune Marx, philosophe, auteur du manuscrit économico-philosophique, et le Marx de la maturité, auteur du Capital. S'agit-il de deux penseurs distincts ? Et la question elle-même se subdivise au moins en deux questions particulières. Qu'en pensait le Marx du Capital, du Marx du manuscrit économico-philosophique ? Ou encore, que pensait Marx en 1867 de la philosophie hegélienne ? Que pense-t-il de la critique qu'il avait rédigée en 1844 de la phénoménologie de Hegel ? Dans quelle mesure aussi Marx lui-même jugeait-il que le Capital comportait l'application à la matière économique d'une méthode philosophique inspirée de Hegel ? Donc c'est l'ensemble donc, du cours de Raymond Aron qui tente de répondre à cette question et je ne vais pas encore une fois reproduire ici le détail de l'analyse. J'en tirerai un autre principe interprétatif de la lecture aronienne de Marx, de ce principe fondamental qui est énoncé dès le début du cours, je le rappelle, qui est de comprendre un auteur comme il s'est compris lui-même. Raymond Aron va en tirer logiquement une conséquence, c'est de ne jamais jouer, si je puis dire, et à l'inverse de nombreux interprètes, de ne jamais jouer le Marx 1 contre le Marx 2, ou inversement, de jouer le Marx 2 contre le Marx 1. Raymond Aron s'inscrit notamment ici en faux contre toute interprétation qui ferait du jeune Marx un tout homogène, susceptible d'être mobilisé contre le second Marx, ou survalorisé au point de relativiser le Marx de la maturité. Car comprendre Marx comme il s'est pensé, c'est-à-dire comme l'auteur du Capital, c'est non seulement comprendre ce qui précède le Capital comme le long chemin qu'il mène au Capital, c'est aussi comprendre ses étapes comme précisément ce qui prépare le Capital. C'est distinguer ce qui est constant dans la pensée d'un auteur de ce qui est circonstanciel. C'est suivre une pensée en constante évolution sans la figer, la pétrifier à un stade de son développement. C'est d'ailleurs la première règle de méthode interprétative énoncée et inaugurant le cours. Aron écrit « La première règle, à mon sens, est la suivante. Il est illégitime de parler de la pensée du jeune Marx comme si elle constituait un bloc. Il y a même une certaine absurdité à faire ce que font la plupart des auteurs qui traitent de la jeunesse et qui consistent à opposer en bloc le Marx de la jeunesse au Marx de la maturité, alors que de toute évidence, la pensée du jeune Marx n'a jamais été un tout achevé et constitue presque par définition un itinéraire philosophique. Or, pour comprendre un itinéraire philosophique, il faut le suivre dans son développement et essayer de faire la discrimination entre les thèmes ou les aspirations qui furent constants à travers cet itinéraire et les étapes de pensée changeantes de moment en moment. Raymond Aron s'oppose notamment à toute interprétation qui ferait des manuscrits de 1844 l'étape finale de la pensée de Marx sur la question de l'économie. Comme on le sait, ces manuscrits parisiens ne constituent pas un ouvrage achevé de Marx, mais résultent de la compilation posthume d'un ensemble de textes qui étaient non destinés à la publication. C'est d'ailleurs ce que fait remarquer Raymond Aron, qui s'il y voit un texte important, et peut-être le plus important des œuvres de jeunesse de Marx, en ce qu'il articule pour la première fois philosophie et économie, étant donc une synthèse entre philosophie allemande de type hegélien et économie politique anglaise, ce texte ne reste à ses yeux qu'une étape dans la longue route, très longue route, qui mène au Capital. Analysant la pensée de Marx en 1844, Raymond Aron écrit: je voudrais répéter d'abord que l'on n'a aucun droit de considérer comme l'étape finale de la pensée de Marx ce manuscrit inachevé, qu'il n'a jamais publié et dont il s'est complètement désintéressé par la suite. Donc, impossibilité donc, de jouer le Marx 1 contre le Marx 2, mais inversement, impossibilité de jouer le Marx 2 contre le Marx 1, car si le second Marx se pose comme un économiste, se veut, se pense comme un économiste, il faut bien reconnaître en effet qu'il s'agit d'un économiste un peu particulier dans la mesure où sa réflexion dans la dernière partie de sa vie n'est pas dénuée d'arrière-plan philosophique, de sorte qu'il est nécessaire de penser ce qui précède le capital comme aussi ce qui prépare. Donc c'est ce que fait Aron dans ce cours, qui dans la première partie du cours va donc suivre cet itinéraire et dans la seconde partie aborder et interpréter le capital. Sur la reconstruction par Aron de l'itinéraire de Marx, comme ce qui précède le capital, je ne vais dire qu'un mot ici. Raymond Aron va dégager deux grandes périodes dans la pensée de Marx, celle des écrits de jeunesse qui s'étend de 1835 à 1848, date de l'apparition du manifeste, et celle de la maturité, où à partir de 1848, pour le dire un peu schématiquement, le passage au marxisme va s'accomplir progressivement. Alors, sur la reconstruction de l'itinéraire de Marx, comme ce qui, non plus comme ce qui précède, mais comme ce qui prépare maintenant au capital, Raymond Aron va repérer un thème et un projet constant, qui est celui de la critique, entendu comme une critique consiste à dénoncer les représentations morales, politiques, religieuses comme des illusions, une critique qui se présente à la fois comme une critique des illusions, mais aussi comme une critique de la réalité qui produit ces illusions. Le marxisme de Marx aurait débuté par une critique de la religion, en montrant que c'est l'homme historiquement et socialement situé qui crée l'idéologie religieuse. Il serait passé d'une critique de la religion à une critique de la politique pour aboutir enfin à une critique de l'économie politique. C'est donc pour Aron le thème de la critique qui va assurer l'unité synthétique de l'œuvre de Marx. Au point de départ, souligne Aron, Marx combine la critique des illusions religieuses avec la critique de la réalité sociale qui fait surgir les illusions religieuses. De la même façon, quand il écrira Le Capital, il combinera la critique de la science économique avec la critique de la réalité économique qui suscite cette science économique. Alors, bien entendu, la mise en œuvre de cette critique, dont je n'ai ici énoncé le principe, est bien plus complexe que je viens de le dire dans la pensée, dans les écrits de Marx. Il faut souligner surtout le rôle de ce concept comme concept unificateur de la pensée de Marx. Donc, dans la deuxième partie du cours, là, j'ai retracé très, très brièvement la première partie du cours qui retrace un itinéraire intellectuel. Dans la deuxième partie du cours, Raymond Aron va s'attacher à comprendre le capital. Alors, c'est ici, à mon sens, que l'interprétation de Marx par Aron s'enrichit, en fait, par rapport à celle... à mes yeux, par rapport à celle développée en 1938 dans l'introduction de la philosophie d'histoire. À l'époque, Aron ne se sentait pas vraiment intellectuellement armé pour aborder le capital. Et comme il le dit dans ses mémoires, il ne possédait pas une culture économique suffisante pour bien comprendre et juger le capital. Dans cette partie du cours, le projet donc est donc de bien comprendre et bien juger le capital. Raymond Aron pense avoir les outils théoriques pour le faire. Et d'emblée, on remarque qu'ici, l'analyse compréhensive ne va pas pouvoir se distinguer, se dissocier de jugement de valeur sur la portée du capital. Raymond Aron, d'ailleurs, avec une grande probité, le souligne et le regrette. Mais ça lui paraît un point inévitable. L'analyse du professeur Aron dans cette partie du cours va suivre le livre 1 du Capital, où ça s'élabore, comme vous le savez, la théorie de la valeur, jusqu'au livre 3, où Marx va tenter le passage de la valeur au prix. Elle tente de démontrer que le projet développé est bien celui d'une critique de l'économie politique, c'est-à-dire à la fois une critique de la réalité économique et de la conscience qui la reflète. Elle explique également en quoi la logique du capital est celle d'un processus de dévoilement de l'essence du capitalisme, seul à même à rendre compte de la réalité phénoménale et de ses contradictions. Alors, Raymond Aron, il développe une explication méticuleuse des grands concepts du capital, la marchandise et sa valeur, l'échange, la notion plus-value qui est liée à celle d'exploitation, le profit, la baisse tendancielle de taux de profit, qui doit conduire le capitalisme à son implosion. Je ne m'insiste pas encore sur le détail de l'analyse. La question qui nous intéresse surtout aujourd'hui, c'est... et de savoir ce que Raymond Aron retient du capital. Alors, en cette question, je serais tentée de répondre rien. Je me suis dit, qu'est-ce qui retient du capital ? Rien. La distinction entre essence et phénomène, elle est tout à fait obsolète, puisque les économistes aujourd'hui travaillent plutôt sur la manipulation chiffrée des phénomènes. La théorie de la plus-value, elle est fausse. La théorie de la baisse tendancielle du taux de profit, elle n'est pas confirmée par les faits et ne permet pas de rendre compte de la nécessité de la catastrophe finale. Le projet de déduire les lois du devenir historique à partir de l'enchaînement logique des catégories abstraites, c'est un projet irréalisable aux yeux d'Henri Moron, qui l'a déjà condamné dès 1938 dans l'introduction de la philosophie de l'histoire. Donc Marx n'a pas réussi, aux yeux de Raymond Aron, à fonder scientifiquement la thèse de l'effondrement du capitalisme. En ce sens, comprendre Marx comme il s'est compris lui-même, donc le comprendre comme l'auteur du Capital, c'est aussi, aux yeux de Raymond Aron, comprendre l'histoire d'un échec. Alors, je vais aller un peu plus vite. Voilà ce qu'il condamne dans le Capital, mais plus que ce qu'il y condamne, ce qu'il y rejette, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de savoir ce qu'il en retient. À mes yeux, ce qu'il condamne d'abord, c'est une critique radicale ou sans reste du capitalisme. Une critique qui se manifeste également comme une critique externe, puisque le système capitaliste est évalué par rapport à l'idée d'un état social radicalement autre, que cet état soit situé dans le passé, comme chez Tonis, ou dans l'avenir, comme chez Marx. Donc une critique radicale, une critique externe, ou une critique sans reste. Voilà ce qu'il condamne énergiquement. Comme le note bien Raymond Aron, pour le marxisme, le capitalisme est condamné pour son injustice parce qu'il est fondé sur l'exploitation, mais c'est aussi un système qui est condamné à mort en raison de ses contradictions. Alors, comme on le voit, la critique morale du marxisme ne se sépare pas de la critique théorique. La critique morale dans le marxisme, la critique morale du capitalisme ne se sépare pas d'une critique théorique. C'est ce qui explique d'ailleurs l'immense pouvoir de séduction du marxisme. Par opposition, Raymond Aron a toujours fait le choix inverse du libéralisme et du réformisme. Ce qui montre d'ailleurs combien, c'est par un dialogue permanent avec Marx que s'est élaboré les cadres de pensée aroniens, si je m'exprimais ainsi. D'ailleurs, comme il n'hésite pas à le dire dans les étapes de la pensée sociologique, je ne dois rien à la pensée de Tocqueville ou de Montesquieu, mais tout à Marx. Donc ce qu'il condamne, c'est une critique externe du capitalisme, mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de savoir aussi ce qu'il retient du marxisme. Je voudrais souligner d'ailleurs, je voudrais souligner que ce qu'il retient, et c'est à mon avis un point très important, c'est l'idée de réformisme. un réformisme qui s'appuie sur une critique interne de la démocratie, car comme je l'ai souligné, on peut critiquer la démocratie ou le système démocratique à partir d'un système social autre que lui, on peut aussi en faire une critique interne. Une critique qui se veut, qui s'effectue au nom des idéaux mêmes de la démocratie. En ce sens, ce que je voudrais souligner, ce qui me paraît le point important, c'est qu'à partir de la critique du marxisme, va se dégager les choix essentiels de Raymond Aron, d'une part le libéralisme, d'autre part le réformisme. Le réformisme, à mon sens aussi, montre que Raymond Aron n'effectue pas une critique, cette fois-ci sans reste ou totale, du marxisme, puisqu'il en retient une part de vérité. Deux secondes. Il en retient une part de vérité, qui est la légitimité de la critique sociale. La légitimité de penser, vous m'avez perturbée. oui, non, je suis dit. Bon. Oui, il retient une part de vérité du marxisme. Il retient l'idée que l'idée de critique sociale est légitime. Me poser la question de la justice sociale est légitime. Et c'est en cela que s'exprime le réformisme aronien. Voilà. Raymond Aron s'est toujours opposé au néolibéralisme d'Alan Hayek, par exemple. Il a toujours tenté de penser l'articulation entre droit et liberté. Il a toujours pensé qu'il ne fallait pas se résigner. Raymond Aron, à mes yeux, n'était pas un conservateur. C'était un libéral, c'était un progressiste. Et il retient de Marx, justement, une part de vérité qui est, justement, qu'il est nécessaire de réformer la réalité à partir d'une action politique réformatrice. Alors là, juste deux secondes. Je voudrais, pour conclure, citer deux citations de Marx qui me paraissent bien illustrer le rapport de Raymond Marx, qui est tiré du marxisme de Marx. D'une part, le génie de Marx est incontestable. D'autre part, il n'existe pas d'auteur que j'ai autant lu et qui m'ait autant formé que Marx, et dont je ne cessais de dire du mal.
Bien, mais je crois que nous allons immédiatement continuer. Bon, allez-y.
Merci. Alors, merci. Je remercie les organisateurs, en particulier Perrine Simon-Naoum, de m'avoir invité à cette journée, bien que je ne sois pas du tout un spécialiste de Raymond Aron. Mais la proposition était, au fond, d'évoquer ou de développer la relation, et j'en suis honoré, hein, qu'un livre que j'ai publié il y a quelques mois sous le titre « Qu'est-ce qu'un chef en démocratie politique du charisme, politique au pluriel ?» sur la relation donc de cette réflexion, que cette réflexion a pu, peut ou pourrait entretenir avec certains axes de la pensée politique et sociologique de Aron sur la démocratie. Alors, je dois avouer que le terme de chef m'a été soufflé par mon éditeur, mon éditrice plus précisément, et avait suscité en moi d'abord une sorte de rejet instinctif, en raison, je pense, de certains habitus anti-autoritaires, familiaux, etc. Mais aussi parce que, bien sûr, la soumission à un chef peut sembler a priori antinomique de l'idée démocratique comme telle. Et c'est au fond en retravaillant... suite à cette provocation finalement de mon éditeur, en retravaillant l'histoire de la pensée démocratique, que j'ai reconsidéré cette fausse évidence d'une incompatibilité entre l'idée de démocratie et la notion de chef, et redécouvert, pour ma part, hein, c'est peut-être une banalité, mais cette tradition fragmentaire qui a été quelque peu, me semble-t-il, recouverte ou occultée, notamment au XXe siècle, sous l'effet de l'expérience totalitaire, c'est-à-dire cette tradition d'une pensée du chef démocratique dans son irréductibilité aux despotes, dans son irréductibilité aux tyrans, dans son irréductibilité à des modèles d'autorité paternaliste, dans son irréductibilité, bien sûr, au chef totalitaire. Et alors, je ne vais pas, ce serait beaucoup trop long, énumérer tous les éléments, tous les auteurs qui ont pu contribuer à cette pensée du chef démocratique, distinct chez Rousseau, par exemple, du maître, distinct chez Aristote déjà, bien sûr, du père, du maître d'esclaves et de relations d'autorité sur fond d'inégalité, alors que le chef politique dans la cité grecque est déjà, au fond, le premier des égaux sur fond d'inégalité qu'on ne se retrouve pas dans les autres formes d'autorité. Donc voilà, il y a eu tout ce champ de la réflexion qui m'a beaucoup intéressé et qui m'a fait réviser ces préjugés peut-être que j'avais. Mais au départ, mon projet était bien de reprendre, pour le dire de façon prétentieuse, mais de reprendre un siècle après une interrogation soulevée par Max Weber au début du XXe siècle, celle qui porte sur la place du charisme dans la vie politique en général et dans la vie démocratique en particulier. Et il m'a semblé en effet que certaines interrogations et intuitions de Weber recevaient une nouvelle acuité, une nouvelle actualité, notamment cette idée que le politique implique forcément un élément de personnalité, de volonté, de décision, et qu'en voulant évincer cet élément du champ politique, finalement, on faisait le jeu des seules forces et des seules logiques impersonnelles qui étaient pour Weber, c'est d'un côté l'administration, la bureaucratie, et de l'autre côté les forces économiques, qui, du coup, exercent leur influence avec, au fond, une absence de résistance s'il n'y a plus cette capacité du politique à porter des intérêts dominés, à donner voix à, justement, l'expression du peuple et de cette chose qui peut apparaître parfois aujourd'hui comme une sorte de vieillerie, l'idée de souveraineté du peuple, l'idée de volonté populaire, toutes sortes de choses qui, parfois, on a l'impression qu'avec cette grande thématique, je dirais, un peu néolibérale de la gouvernance, qui serait, au fond, idéalement une gouvernance sans gouvernant, une gouvernance par le droit et l'économie, eh bien, on pourrait faire l'économie de, juste, si j'ose dire, de ces dimensions de la politique, au fond, comme voilà, expression d'intérêts dominés et exposés socialement. Alors, c'est donc sous cet angle que j'ai essayé de reprendre l'interrogation de Weber, mais bien sûr, un siècle après, il y a tout ce qui nous sépare de Weber et tout ce que, précisément, Raymond Aron a beaucoup contribué à introduire dans la discussion même des textes de Weber, que, bien sûr, Aron a fait traduire, a introduit, a discuté, au fond, tout au long de sa vie, d'ailleurs. C'est une chose extrêmement frappante et remarquable, au fond, de même que Marx a été, d'une façon, son objet continuel. Max Weber a été, sur un mode plus empathique, son interlocuteur privilégié théorique, avec des grandes variations, néanmoins, dans l'appréciation à la fois des mérites et des dangers de la pensée de Weber, notamment sur cette question de la valorisation du charisme et d'éventuelles vertus démocratiques du charisme. Et donc, c'est à ça que je vais essayer de m'attacher dans le temps qui m'est imparti. Alors, du coup, je crois que je ne vais pas résumer la typologie weberienne des dominations et des modes de légitimité. La société des amis de Raymond Aron connaît ça par cœur, et donc je ne vais pas, j'espère que l'Assemblée connaît cette distinction entre, donc, je dis simplement, je rappelle vraiment des éléments minimaux, la domination traditionnelle qui repose sur la croyance en la sainteté des traditions immémoriales, en la sainteté du passé, du jadis, de l'éternel hier, comme dit Weber. D'autre part, la domination légale rationnelle qui repose sur la croyance en la légalité des règles arrêtées, dans la conviction que ceux qui ont été désignés légalement par les autorités pour donner des ordres peuvent légitimement attendre d'être obéis, donc de toute façon une sorte de légitimité circulaire attachée à la règle formelle, à la légalité comme telle, à la loi ou à la constitution, au règlement, aux procédures. Et voilà, et bon, j'en viens au dernier type pur, la domination charismatique, que Weber définit, il y a beaucoup de textes, mais disons, je cite celui-là, Weber parle d'une dévotion à l'égard de la vertu héroïque ou du caractère exemplaire d'une personne individuelle ou des commandements révélés par cette personne. Et les exemples sont très variés, ceux du prophète, du chef de guerre élu, du souverain plébiscité, du chef de parti, du leader révolutionnaire, du démagogue au sens grec du terme, qui n'est pas péjoratif. Et voilà, donc ici, l'autorité ou la domination repose sur un certain rapport émotionnel entre les dominés et le dirigeant sur une forme de croyance dans les qualités extraordinaires, hors du commun de ceux ou de ces dirigeants, que ce caractère d'exception soit vu comme d'origine magique, prophétique, militaire, héroïque ou simplement lié, et on se rapproche sans doute davantage d'un chef démocratique, à un art de la parole publique, à une certaine aura personnelle, à une intelligence des situations, à un coup d'œil, à une capacité à susciter un enthousiasme et un entraînement. Et sur ces différents mobiles d'adhésion ou d'obéissance, qui c'est le versant aparté subjecti de cette typologie, Aaron a, de cette adhésion à un pouvoir, de ces mobiles d'adhésion à une Herrschaft, à une domination, Aaron résume la tripartition weberienne par une formule tout à fait frappante, que je cite, donc c'est l'introduction aux deux conférences, le savant et le politique. L'homme obéit au chef, au pluriel, donc l'homme obéit au chef que l'accoutumance consacre, que la raison désigne, que l'enthousiasme élève au-dessus des autres. Les trois formes, peut-être une simplification d'ailleurs, hein, mais l'homme obéit au chef que l'accoutumance consacre, donc la domination traditionnelle, que la raison désigne, c'est la domination légale rationnelle, que l'enthousiasme élève au-dessus des autres, c'est la domination charismatique. Je laisse de côté quelque chose qui agite beaucoup le commentaire weberien et qui est très intéressant en soi, mais qui serait trop long, qui est l'idée que Weber parfois a songé à rajouter une quatrième case à sa typologie qui concerne justement la légitimité démocratique, parce qu'on peut avoir l'impression que dans ces différents types, il manque une case qui est celle justement que Weber définit, semble-t-il, dans une conférence de Vienne, dont on a simplement une recension journalistique, où il parle d'un mode de légitimation qui tire sa légitimité de, précisément, de la volonté des dominés et du sentiment des dominés qu'ils sont effectivement bien dirigés. Et on aurait là donc la légitimité démocratique qui, sinon, si on simplement combine les trois autres formes de légitimité et des mobiles d'adhésion, est peut-être effectivement un peu absente de cette typologie. Bon, vous voyez que c'est un point important, mais que je ne peux pas tellement approfondir. J'aimerais juste approfondir deux questions qui se posait à Weber et qui se pose encore à nous, me semble-t-il. Le charisme n'entre-t-il pas nécessairement en tension, voire en déclin, avec le processus historique que Weber thématise sous le nom de rationalisation, c'est-à-dire cette saisie par les différents secteurs sociaux de leur logique intrinsèque, cette sorte de spécialisation, de professionnalisation de chaque secteur social qui concerne aussi la vie politique, qui se spécialise, se professionnalise, a ses propres écoles, etc. Et finalement, peut-être fait de moins en moins place à des formes de parcours exceptionnels, de capacité à bousculer l'ordre des choses qui sont pour Weber attaché éventuellement à cette légitimité charismatique, justement parce qu'au fond, ici, la personne peut décider qu'elle n'est pas liée par les logiques administratives, par les logiques des corps, et peut apporter, au fond, une forme de, même de révolution, dit Weber, puisque Weber estime que le charisme a été la grande force révolutionnaire des périodes déterminées par la tradition. Donc, ça, évidemment, il y a peut-être une restriction qui est justement une restriction historique. Donc c'est la question, mais j'irai vite là-dessus, c'est de savoir si effectivement le moment charismatique est plutôt un moment archaïque pour Weber ou si c'est un moment toujours présent, toujours latent dans la vie politique, y compris dans la vie politique démocratique moderne. Et la réponse est la seconde, c'est-à-dire que pour Weber, même s'il y a des textes un peu qui ont l'air de dire le contraire, Weber estime quand même que le charisme demeure peut-être en un sens fortement transformé, je cite une partie non traduite de Wirtschaft und Gesellschaft sur la persistance du charisme, le charisme demeure peut-être en un sens fortement transformé un élément extrêmement important de la structure sociale. Et cet élément, ajoute Weber, se manifeste dans des émotions de masse incalculables, notamment lors des grandes élections dans les démocraties de masse et dans d'autres occasions d'effervescence, de commémoration, par exemple, de fêtes ou de crises, bien entendu, dans les moments d'exception, de crise, y compris dans la vie des démocraties. Et les exemples que cite Weber sont parfois très proches historiquement, même il y a ses contemporains, par exemple Kurt Eisner, un leader anarchiste allemand. Et Weber souligne, notamment dans ses textes politiques, que la démocratie parlementaire même, en tant qu'elle fait appel beaucoup à la parole, etc., et la démocratie de masse favorise l'apparition de chefs ou de dirigeants charismatiques et l'oriente vers une démocratie plébiscitaire.
Et il y a cette opposition chez Weber entre démocratie plébiscitaire et démocratie acéphale, sans tête. Et la démocratie acéphale, clairement, est pour lui quelque chose qui n'est pas du tout satisfaisant parce que cela risque justement de laisser la voie libre, ouverte, à, au fond, une domination économique sans frein des forces capitalistes, disons, les plus brutales, et d'autre part, à la domination anonyme de la bureaucratie, on dirait peut-être aujourd'hui, d'un côté des marchés et de l'autre de la technocratie. La démocratie acéphale ne peut pas faire face au marché ou bien se laisse complètement dominer par les marchés et par la technocratie. Enfin, j'actualise brutalement ici le diagnostic de Weber, mais il me semble qu'on peut citer des textes où c'est assez proche de cela. Sauf que les marchés, évidemment, n'ont pas, il n'y a pas eu cette autonomisation de l'économie financière. Comment apprécier politiquement ce processus, donc en admettant que Weber le décrit justement? Donc je ne répète pas ce que j'ai dit sur la vertu au fond de transformation que Weber, transformation sociale, la capacité de transformation sociale que Weber attache au charisme. Et on peut se demander, pour reprendre l'interrogation première, si cette sorte de tension entre chef et démocratie, entre charisme et démocratie, si finalement Weber, en valorisant le charisme, ne se fonde pas finalement sur une vision élitiste de la démocratie, qu'il aurait d'ailleurs en partage avec la sociologie des élites tournant des 19e et 20e siècles, que Aron a très souvent évoqué et travaillé. Il y a eu une allusion tout à l'heure, je crois, de Danilo Scholz à cela, c'est-à-dire Mosca, Pareto, Roberto Michels, ceux qu'on appelle d'ailleurs les machiavéliens. Et selon eux, notaron, alors là aussi, son appréciation a changé au cours du temps, mais selon eux, notaron ici au chapitre 8 de Démocratie et totalitarisme, les régimes dits démocratiques sont en réalité des oligarchies plutocratiques. Les oligarchies plutocratiques, la minorité qui détient le pouvoir serait dominée par les riches, les financiers, les industriels. Alors Weber, il y a certains textes de Weber où il semble souscrire à une vision selon laquelle la démocratie cache en fait toujours la domination d'une minorité, d'une oligarchie, et donc serait une sorte d'écran cachant cette oligarchie. Alors je ne crois pas que c'est tout à fait le cas pour Weber, justement parce qu'il ne désespère pas, Weber, de l'action politique des masses, de toute façon, et de leur effet de démocratisation réelle, un effet de démocratisation sociale, qui se traduit d'ailleurs au XIXe siècle par l'extension du suffrage, par des conquêtes démocratiques, etc. Et il ne désespère pas non plus de l'action individuelle de certains hommes de conviction, c'est toute cette thématique hein, de la conviction politique qui peut opérer des transformations sociales. Donc même s'il appartient en un sens à cette constellation démystifiante, je ne crois pas qu'il conclue que la démocratie ne serait qu'un faux-semblant masquant une oligarchie. Alors je cite un texte très contrasté, un problème c'est que pour qu'on cite Weber, comme c'est un esprit à peu près aussi nuancé que Raymond Aron, il faudrait citer des longs passages, puisqu'après il dit « mais ceci, oui mais encore mais cela, et cependant… » Donc voilà. Donc quand on coupe, en fait, on coupe une partie des nuances, mais j'y suis obligé. Je cite, c'est donc le texte de 1917, très connu, « Parlement et gouvernement dans l'Allemagne réorganisée ». C'est toujours le principe du « petit nombre », entre guillemets, c'est-à-dire la capacité manœuvrière politique supérieure des petits groupes, de petits groupes dirigeants qui dominent l'action politique. Cette note césariste, entre guillemets, ajoute Weber, est dans les états de masse inexpugnable. Mais, ajoute encore Weber, c'est aussi cet aspect césariste qui garantit qu'un certain nombre de personnalités assument, face à l'opinion publique, la responsabilité qui se diluerait complètement dans une assemblée gouvernant en grand nombre. Voilà, vous voyez, ce jugement très balancé, ce « mais » qui est caractéristique d'une appréciation contrastée des tendances contemporaines et au fond de la recherche par Weber d'un équilibre entre, d'un côté, ce qu'il appelle le tournant césariste de la démocratie de masse moderne, c'est-à-dire le fait qu'elle porte au fond toujours un numéro un, comme dira Aron dans son texte sur l'introduction à la philosophie politique, elle porte des personnalités au devant grâce aux communications, de moyens de communication de masse notamment. Mais justement, au fond, ce césarisme a une sorte de valeur démocratique et donc il faut le préserver tout en se protégeant d'une façon de lui à travers les garanties parlementaires, les contrôles, au fond, à travers le libéralisme politique comme système d'empêchement des dérives tyranniques. Et donc ensuite, il y a toute une réflexion, je ne vais pas tellement avoir le temps de la développer, mais bien sûr sur les mérites comparés des différentes formes de démocratie. en Angleterre, aux États-Unis et en France. C'est les trois grands exemples que Weber privilégie dans cette perspective. Mais je ne vais pas m'y attarder pour dire quelques mots quand même d'Aron, si j'ai encore un petit peu...
Oui.
Au fond, on pourrait dire que la démocratie, pour Weber, doit toujours traiter l'homme politique charismatique, je dirais, pour reprendre un terme que Derrida a beaucoup travaillé chez Platon, comme un pharmacon, c'est-à-dire, selon la double traduction possible de ce terme grec, comme un remède notamment à, précisément à la domination et au fait que le peuple ne peut trouver expression, et un remède qui peut être aussi un poison, un remède à la paralysie conservatrice et à la sclérose des institutions même, mais poison potentiel pour les libertés. Alors, donc dans la comparaison entre les exemples nationaux, en 17, Weber estime que la France de la Troisième République est habitée par une crainte excessive, justement, du césarisme, due à l'épisode du boulangisme, et que cela produit un manque d'autorité des pouvoirs suprêmes auprès des masses. Et il contraste cette situation avec la forte légitimité attachée au présidentialisme américain. Alors, il me semble qu'on trouve une appréciation comparatiste très proche chez Aron sous la 4e République, en 52, par exemple, dans son introduction à la philosophie politique, et encore dans ses mémoires, lorsqu'Aron note que les régimes démocratiques inclinent par essence au compromis, et que c'est bien sûr un principe respectable au plan de la politique intérieure, mais à condition que ça n'aboutisse pas à la paralysie ou à des politiques contradictoires et absurdes. Et en particulier, ajoute Aron, au plan de la politique étrangère, le refus du choix peut avoir des conséquences catastrophiques. Et Aron citait bien sûr la Troisième République face à Hitler, ou... Bon, à la frontière entre politique intérieure et politique extérieure, la 4e République face à la crise algérienne et son incapacité, finalement, à oser la décolonisation. Et dans les deux cas, estime Aron, ces gouvernements glissèrent de demi-mesure en demi-mesure avec des effets dramatiques. Aron a émis de très fortes réserves sur la 5e République. On a rappelé ses sentiments pour le moins ambivalents vis-à-vis de Gaulle. Mais au moins, la 5e République, en concentrant davantage la décision en politique étrangère à l'échelon du président et aussi sur ce genre de décision, a-t-elle eu le mérite, à ses yeux, de ne pas orienter systématiquement vers les compromis et de permettre des décisions claires, notamment précisément en faveur de l'indépendance de l'Algérie, même si là-dessus, Aron a un jugement assez ironique sur le double jeu des gaullistes qui ont d'abord reproché, bien sûr, à la 4e République de menacer l'abandon, de risquer l'abandon de l'Algérie française pour ensuite effectuer eux-mêmes cet héroïque abandon, dit Aron, avec un mélange, bien sûr, d'ironie et d'approbation. À la lumière des décennies qu'il séparait de Weber, et notamment, bien sûr, de la suite de l'histoire allemande après la mort de Weber, Aron est revenu sur un mode critique, dans notamment les étapes de la pensée sociologique, sur le fait que Weber est, au fond, trop attendu du charisme, du chef capable de décision, pour contrecarrer les progrès jugés tentaculaires de la bureaucratisation étatique. Par là, Weber aurait exagéré les aspects négatifs de la domination légale rationnelle et de l'administration, et la froideur, l'anonymat, le conservatisme porté par la bureaucratie, et Weber aurait minoré les dangers du pouvoir personnel charismatique, dont les méfaits gigantesques devaient éclater, bien sûr, après sa mort, quelques années après sa mort, avec l'hitlérisme. Je cite cette formule frappante à nouveau de Aron dans les étapes d'un procès sociologique. Cette fois, nous avons appris à craindre les promesses des démagogues plus que la banalité de l'organisation rationnelle. Et au fond, il me semble que si Aron a ici en vue le nazisme, on pourrait tout de même objecter deux choses. D'une part, la particularité du nazisme est aussi d'avoir plutôt combiné domination charismatique, si l'on admet qu'il s'agit d'une domination charismatique, ce qui est très débattu par les historiens allemands, d'avoir plutôt combiné domination charismatique et les forces de l'organisation rationnelle, entre guillemets, de l'État, au profit d'une œuvre de mort que le démagogue seul, bien sûr, ne pouvait pas, n'aurait pas pu accomplir. Et, bon, d'autre part, il y a ce débat, notamment un livre récent, sur le charisme de Hitler qui met en question le schéma weberien, mais je laisse cela de côté. D'autre part, Aron, et je m'achemine vers la conclusion, Aron rabat un peu vite, me semble-t-il, le charisme politique sur le danger démagogique.
Et je remarquerai qu'il fait place dans démocratie et totalitarisme à des possibilités. Mais je remarquerai peut-être qu'il fait place dans démocratie et totalitarisme à des possibilités positives de rupture ou de réforme radicale qui ont impliqué, écrit-il, de restituer au pouvoir une capacité d'action. Des mouvements d'opinion plus ou moins violents rendent aux gouvernés la possibilité d'agir et donnent parfois lieu à des transformations sociales de grande ampleur. Et il donne alors deux exemples français de ce qu'il appelle ici, je crois sans péjoration, des pseudo-révolutions.
Ce terme aura parfois des connotations péjoratives sous sa plume,
mais ce n'est pas ici. Des pseudo-révolutions dans la mesure où ça ne produit pas un effondrement des institutions et un remplacement des institutions. Des pseudo-révolutions, c'est donc 1936, le Front populaire, et 1945, les réformes sociales consécutives à la libération. Et dans les deux cas, il me semble qu'on pourrait montrer une certaine combinaison entre des hommes charismatiques et des mouvements de masse, et des revendications de masse qui trouvent un relais au sommet. Voilà. Alors la question que je m'étais posée, c'était de savoir si on pouvait précisément... penser quelque chose comme un charisme qualitativement démocratique, un charisme qui permette l'approfondissement des valeurs constitutives de la démocratie, de l'égalité, de la liberté. J'ai même tenté une espèce de typologie de ces charismes démocratiques, un charisme de fondation, un charisme de justice, un charisme d'égalité, etc. Et il me semble que Aron, au fond, pourrait donner, malgré sa critique de Weber, quelques arguments en faveur de cette idée. J'aimerais, pour vraiment finir, poser simplement deux questions générales et liées plus davantage à l'actualité. Les conjonctions de mouvements populaires et d'un relais au sommet par des personnalités politiques capables d'apporter précisément un souffle et un approfondissement des valeurs constitutives de la démocratie, de telles conjonctions sont-elles encore possibles aujourd'hui, ou bien le politique s'est-il mis en situation de se déposséder des moyens de telles transformations ? Peut-être pas le politique, mais une combinaison de transformation économique et de transformation politique. Et au fond, voilà, ce serait une série d'interrogations d'inquiétudes sur lesquelles j'aimerais finir, qui mettent peut-être en cause des présupposés de mes propos antérieurs. N'assiste-t-on pas plutôt aujourd'hui à une disjonction, à une dissociation entre les mouvements populaires ou sociaux de masse et les formes de la représentation politique classique, parlementaire, partisane, gouvernementale, y compris en Europe, je pense, avec des grands mouvements de protestation qui peuvent avoir lieu en Espagne, en Italie, en Grèce, contre des gouvernants qui sont perçus comme ayant, au fond, abandonné la capacité à assurer le bien-être minimal du peuple. N'assiste-t-on pas à une disjonction entre le libéralisme économique ou néolibéralisme, d'une part, et la démocratie, entendue comme capacité du peuple à décider de son sort ? Alors on sait que dans le siège de Weber, Carl Schmitt a radicalisé sur un mode dangereux de telles interrogations sur la disjonction possible entre démocratie et libéralisme, et moi je pense qu'il faut protéger cette association, mais Aron lui-même se demandait si, dans le cas du néolibéralisme, à l'égard duquel il était à l'origine tout à fait critique, précisément, on n'allait pas risquer une telle dissociation. Je pense à un texte de 52, justement, où il parle de Hayek, et il note « Je crois que si l'on voulait, à l'époque moderne, avoir un système économique libéral tel que le souhaite M. von Hayek, il faudrait la dictature politique. » Donc on a une représentation par Aron, au fond, d'un mode d'ultralibéralisme ou de néolibéralisme qui risque de saper les bases sociales de la démocratie en sapant les éléments de socialisme, dit Aron, qui ont été intégrés d'une certaine façon de force au capitalisme et qui ont permis justement une intégration des masses, y compris des masses ouvrières, dans les démocraties dites bourgeoises. Et précisément, on peut se demander aujourd'hui si ce qui est en train de se passer, ce n'est pas une telle dissociation et du coup une façon pour les démocraties de saper leur propre base sociale. Merci.
Bien. Merci beaucoup. Je voudrais, avant de commencer, remercier très chaleureusement Perrine Simon-Aoum et Sylvie Mesure de m'avoir invité à parler dans le cadre de ces journées, de cette journée Raymond Aron. Je suis très heureux d'avoir à le faire. Je n'ai jamais encore eu l'occasion de le faire, mais si je devais décliner l'admiration pour l'œuvre et la personne de Raymond Aron, outre tous ses travaux sur les relations internationales, sur la paix et sur la guerre, vers lesquels je reviens beaucoup ces derniers temps et dont je découvre à quel point ils me sont indispensables, il y aurait bien évidemment la figure du spectateur engagé. Et lorsque j'essaye, s'il fallait reconstituer l'itinéraire d'une vocation, si je me reporte au début des années 80, je sais bien alors que, avec quelques autres, la figure de Raymond Aron a compté à ce titre comme modèle de spectateur engagé. Et donc, en un certain sens, la façon que je vais avoir aujourd'hui de m'insérer dans ces journées, ce sera de me livrer aussi, si vous me le permettez, à un exercice de spectateur engagé qui se situe dans le prolongement des analyses que vient de nous proposer Jean-Claude. Et donc je vais parler moi aussi de cette crise que traverse aujourd'hui, ou je vais parler de cette crise que traversent les peuples d'Europe et, en un sens, vous le verrez, d'une certaine crise de la jeunesse. Donc je donne à cet exposé l'intitulé « Des peuples en crise ?» point d'interrogation. Le crédit de l'Europe est épuisé. Il y a bien des façons d'entendre un tel énoncé. Au-delà du sens, évidemment économique, qu'on est tenté de lui donner, selon lequel l'appartenance à la communauté européenne aurait cessé de signifier pour beaucoup, à commencer par les Athéniens, une ressource et une sécurité, se retournant au contraire à leurs yeux en une source croissante d'insécurité, la formule pour ce qu'elle vaut fait signe aussi bien vers une redoutable crise de confiance. L'Europe ne fait plus recette. Même la promesse d'une paix durable qu'elle semblait porter encore à la fin du siècle dernier ne fait plus rêver, aussi vrai qu'on ait pu parler, comme Jérémy Rifkin le faisait encore il y a quelques années, d'un rêve européen. Aussi, le crédit en question n'est-il pas seulement celui que la communauté consente aux États endettés, c'est également celui que les citoyens d'Europe accordent à ces institutions. En forçant un peu sur les mots, l'Europe ne fait plus crédit signifie qu'elle n'est plus portée par la vague d'une croyance. La plupart ont cessé d'y croire. On ne croit plus en ces institutions soupçonnées de servir exclusivement les intérêts d'une classe dominante, y compris dans les valeurs démocratiques qu'elles se reconnaissent comme fondement. Mais du même coup, on ne croit pas davantage en une supposée identité européenne. Et là encore, il y a assurément de bonnes raisons de mettre en doute son invocation, tant l'histoire de l'Europe est indissociable des images de sa propre identité qu'elle n'aura cessé de construire et de projeter dans le monde, avec tout ce que celle-ci purent avoir d'exclusif. Mais lorsque nous disons aujourd'hui que l'identité de l'Europe fait l'objet d'un discrédit, ce n'est pas la contestation légitime de ces identifications qui est en question, et ce n'est pas non plus l'horizon cosmopolite qui pourrait être dégagé de leur critique qui est mise en avant. C'est à la tentation réactive d'un repli crispé sur des identités nationales supposées menacées dans leur intégrité ou leur pureté, sinon dans leur existence, qui les donnait droit pour prétendument les restaurer ou les sauver. La crise de confiance s'apparente ainsi à la recherche d'une loi de l'histoire alternative. Un peu partout en Europe, dans des partis et des formations extrêmes, elle suscite la tentation de monogénéalogie culturelle, régressive et discriminante, qui reconduisent toute identité collective à l'origine prétendument homogène de son histoire et toute identité individuelle à ses supposées racines. Ce qui est nié alors, c'est ce que cette histoire doit aux traductions interlinguistiques et intersémiotiques, aux importations de formes symboliques, de savoirs, de pratiques et pas seulement de produits commerciaux, aux échanges intellectuels, artistiques, savants, c'est-à-dire au processus complexe qui soumet toute identité, aussi bien individuelle que collective, à la loi d'une perpétuelle autodifférenciation, laquelle consiste pour elle à n'avoir d'avenir qu'autant qu'elle devient autre qu'elle-même, ni pure ni homogène donc, mais toujours hétérogène. Cet avenir, compris comme devenir autre, c'est celui que redoutent et combattent à la fois tous ceux et celles qui ne perçoivent dans ce mouvement rien de plus et rien de moins qu'une dissolution de l'identité qu'ils tiennent pour responsable de tous les maux de l'Europe. Le risque alors, c'est de faire de la crise économique liée aux effets de la mondialisation une crise de l'identité. Comme si la perte de la souveraineté économique et du même coup politique, qui sont le premier effet de cette mondialisation, devait être mise sur le compte des mouvements de population, des vagues d'émigration, de toute cette hospitalité stratifiée qui sont depuis toujours constitutives du devenir des identités, y compris quand elles se définissent comme nationales. Le risque, ce serait de s'imaginer, comme cela semble être le cas pour ces nostalgiques d'un passé largement fantasmé, qu'il n'y aurait pas de solution plus appropriée pour répondre à la crise que la restauration de cette identité perdue, comme si elle constituait la condition première d'une souveraineté retrouvée. Identité et souveraineté. Si la question est ici de savoir dans quelle mesure les peuples européens pourraient se retourner contre la démocratie, c'est la question qui m'avait été posée, si la question est-il de savoir dans quelle mesure les peuples européens pourraient se retourner contre la démocratie, c'est dans leur tension réciproque, la tension entre une souveraineté éprouvée comme perdue et la tentation d'une identité susceptible d'être restaurée, que ces termes doivent être posés. On sait, grâce aux analyses proposées par Pierre Rosanvallon dans « Le peuple introuvable », quelle déception originaire nourrit le malaise dont souffre la démocratie, à savoir l'expérience d'une contradiction insurmontable entre ce qu'il appelle le principe politique de la démocratie et son principe sociologique. Parce que le principe formel de la construction juridique du peuple en corps des citoyens exige la désincorporation du social, ou encore, je cite, sa désubstantialisation, la démocratie reste en permanence exposée à des tentatives de figuration symbolique qui pallient son indétermination. Et en même temps, l'attachement qu'elle requiert, la démocratie, implique qu'un minimum de crédit puisse être accordé à cette construction et à cette abstraction. La démocratie repose ainsi sur un équilibre fragile qui se laisse résumer dans ces termes. Plus la confiance qu'on met en elle est forte, confortée par les garanties qu'elle offre, la sécurité, la paix, plus elle tient le pari de la non-violence qui lui est essentielle, moins cette figuration est perçue comme une nécessité. À l'inverse, pour peu qu'elle se trouve décrédibilisée, la tentation sera toujours forte de substantialiser le peuple, par exemple, en lui réinventant une identité homogène, fût-ce au prix d'une fascination pour une violence reconduite. Évidemment, préparant cette intervention, il y a déjà maintenant quelques semaines, je n'imaginais pas comment elle s'inscrirait depuis la semaine dernière dans une actualité tout à fait tragique. La violence, donc. La violence, on conviendra aisément qu'à demander dans quelle mesure le peuple pourrait se révéler un ennemi de la démocratie, c'est d'elle qu'il est question. Ce ne sont pas ses revendications, ses protestations, ni sa contestation en elle-même qui sont inquiétantes. Mais les formes de violence que son idée, l'idée du peuple, celle qui fait diversement le lit de tous les populismes, pourrait justifier. Dans les réflexions qui suivent, je me concentrerai sur celles qui procèdent des tentatives qui visent à réidentifier, réessentialiser ou resubstantialiser le peuple, entre lesquelles se distribuent les différentes formes d'invocation du peuple, de droite ou de gauche, qui affectent aujourd'hui les démocraties européennes. En d'autres termes, c'est moins du peuple lui-même qu'on se demandera s'il constitue un tel ennemi que de l'idée ambivalente qu'on s'en fait et de la façon dont celle-ci, jouant sur le discrédit des démocraties, contribue à décrédibiliser davantage encore la construction juridique du peuple souverain qui lui sert de fondement. Mais pourquoi devrait-on reconnaître dans ces tentatives un péril ? Qu'est-ce qui nous pousse à percevoir dans l'invocation d'une identité du peuple, de son essence ou de sa substance, une menace, à plus forte raison lorsque celles-ci font l'objet d'une promesse de défense, de restauration, de régénération ou de renaissance? Nombreux sont ceux et celles pour lesquels, de fait, ces idées n'ont rien de redoutable. Ici, un détour s'impose. C'était en 1990. Et déjà, on était en droit de s'alarmer d'une résurgence des nationalismes européens, alors même que le mur de Berlin tombait, l'Europe semblait portée par la promesse d'une réunification, qui n'était pas seulement celle de l'Allemagne, mettant un terme à près d'un demi-siècle de divisions menaçantes. Tandis que la perspective d'un élargissement de l'Union européenne s'ouvrait, le spectre de crispation identitaire réactive qu'elle ne manquerait pas de susciter en retour s'annonçait déjà. C'est alors que Derrida, dont je dirai un bref mot, prononce à Turin une conférence publiée l'année suivante sous le titre « L'autre cap », avec pour sous-titre « Mémoire, réponse, responsabilité », vers laquelle, aujourd'hui, plus que jamais, il n'est pas inutile de se retourner. Quelques 20 ans avant la crise, qui constitue l'horizon de notre questionnement, il ouvre en effet ses réflexions en énonçant deux axiomes, dont l'un, au moins, pourrait sonner comme une mise en garde. Donc je me concentrerai, j'avais prévu de parler aussi du premier, mais là, un peu pressé par le temps, je vais m'en tenir au second. Donc je m'en tiendrai au second, et le second axiome renvoie à la question de l'identité, sans que Derrida précise s'il songe alors à l'européocentrisme, c'est-à-dire à toutes les identifications indues de l'Europe à la démocratie, aux droits de l'homme, au progrès de la raison, comme si ces grandes conquêtes avaient été sa propriété, qu'elle aurait eu à charge d'exporter dans le reste du monde, ou au contraire, aux identités culturelles européennes, à leurs fantasmes respectifs et à la surenchère d'appropriation dont leur identification finit trop souvent par faire l'objet. Peu importe en vérité, car le second axiome vaut aussi bien pour l'un, l'européocentrisme, que les autres, les identités culturelles nationales. Et ce qu'il rappelle, ce second axiome, est la chose suivante, je le cite, « Le propre d'une culture, c'est de n'être pas identique à elle-même, non pas de n'avoir pas d'identité, mais de ne pouvoir s'identifier, dire moi ou nous, de ne pouvoir prendre la forme du sujet que dans la non-identité à soi, ou si vous préférez, la différence avec soi. » Donc on conçoit, fin de citation, on conçoit la menace qui se dessine ici en filigrane. S'il est vrai que la crise que traverse l'Europe, en même temps qu'elle attise la défiance à l'encontre des démocraties européennes, ravive, sinon attise, l'inquiétude d'une fidélité à une identité supposée menacée, qu'à défaut de croire en l'Europe, c'est cette fidélité entendue comme attachement qui devient elle-même l'objet d'une croyance, comme une bouée de secours à laquelle on s'accroche, la question se pose de savoir comment, à quelles conditions, suivant quels principes, on est fidèle à cette identité dans laquelle on veut croire. Est-ce en cédant à la tentation d'un repli sur soi, d'une clôture défensive, d'un cloisonnement protecteur, en multipliant les gestes symboliques de réappropriation et de réidentification de l'identité à des identifiants culturels homogènes, purifiés, épurés, avec tout ce que celles-ci peuvent signifier et impliquer de violences effectives et symboliques, de stigmatisation et de discrimination ? Ou bien est-ce en reconnaissant ce mouvement de différenciation de soi d'avec soi comme la seule chance pour une identité culturelle déterminée de rester vivante, c'est-à-dire en donnant droit à cette culture de soi comme culture de l'autre. Dans ces deux façons antagoniques de comprendre, de sentir donc, et donc de vivre la fidélité à soi, il y va, on l'aura compris, de deux formes radicalement opposées de penser les règles de l'hospitalité. La première est vouée à s'enfermer dans la spirale sans fin de conditions de plus en plus restrictives. Elle empile les uns sur les autres, les lois, les décrets, les contrôles, les fichages. Elle mesure son succès au nombre des interpellations et des expulsions, comme s'il constituait le baromètre d'une intégrité, d'une indemnité ou d'une sécurité restaurée. La seconde, au contraire, c'est que si certaines conditions sont évidemment nécessaires, celles-ci ne sauraient en aucun cas se réclamer d'un principe de justice qui devrait bien davantage être identifiée à l'exigence d'une hospitalité sans condition. Elle sait que toute condition est à ce titre injuste, et qu'aussi nécessaire soit-elle, elle suppose toujours une transaction avec le principe de justice qui tienne, le seul qui tienne, celui d'une hospitalité sans condition. Dans le premier cas, l'Europe est par définition suspecte. Elle ouvre des frontières que les partisans turiféraires d'une identité protégée préféraient voir rester fermées. Elle est pensée dans les discours les plus agressifs comme une passoire qui laisse entrer sur le sol européen ces hommes et ces femmes étrangers à sa culture, qui sont censés non seulement menacer son identité, importer d'autres mœurs, d'autres pratiques, d'autres règles, mais également peser du poids de leur nombre, réel ou fictif, sur les données économiques de la crise, les chiffres du chômage, le montant global des prestations sociales, les dépenses de l'État. Dans le second cas, l'Europe apparaît comme une chance, celle précisément d'en finir avec ses crispations culturelles identitaires. Ceux qui en défendent le principe savent ce que l'invocation de l'identité nationale, raciale, ethnique, linguistique, culturelle a coûté à l'Europe et combien reste redoutable le potentiel de destruction imprévisible et pourtant improbable que réactive ou ravive son invocation meurtrière, comme si le signifiant Europe portait en lui la promesse d'en finir avec toutes les appropriations identitaires ou identificatoires. Elle importe la promesse, elle emporte la promesse, mais elle inclut aussi du même coup la menace de se construire elle-même en forteresse, ne faisant rien d'autre alors que déplacer les frontières et les murailles, reconstruisant sur ses confins les murs qu'elle a détruits à l'intérieur. Car voilà toute la question. Si la vocation de l'Europe reste d'en finir, si la vocation de l'Europe reste encore aujourd'hui d'en finir avec les identités meurtrières, il en résulte une responsabilité au sens que Derrida pouvait donner à ce terme, qui ne saurait se réduire à aucune de celles auxquelles, au cours de son histoire, l'Europe s'est complu à s'identifier. Cette responsabilité, quelle est-elle? S'il est vrai qu'il s'agit pour l'Europe, comme le titre de cet ouvrage, L'autre cap, semble l'indiquer, de se donner une autre direction, une orientation qui ne reproduise pas cette présomption et cette arrogance d'une centralité exemplaire, insoutenable au reste du monde et depuis longtemps dépassée sur tous les plans, cette responsabilité prend la forme d'une aporie, dont les deux termes se laissent définir de la façon suivante. D'une part, l'Europe ne peut plus s'imaginer pouvoir encore fonder son unité sur aucun des discours auxquels elle a jadis identifié sa place dans le monde, sa prétendue mission morale, politique ou culturelle. Elle ne peut plus se réclamer des trois sources supposées de son identité, la Grèce, Rome et le judéo-christianisme, pour s'ériger en capitale du monde. À supposer qu'on veuille jeter un regard rétrospectif sur les guerres du XXe siècle, elle ne signifie pas autre chose, comme le savait le philosophe tchèque Jan Patočka, que la fin de cette illusion. Et puisqu'il faut s'interroger sur les citoyens d'Europe, sur ce peuple ou cette communauté introuvable, ce n'est certainement pas sur de tels critères et sur une telle vision centralisée que leur attachement à quelque chose comme une appartenance européenne pourrait reposer. Quant au second terme de cette même aporie, nous le connaissons, cette identification de l'Europe, aussi impossible soit-elle, ne devrait pas non plus aboutir à ces multiples formes de renoncement à l'unité, à la communauté, qui ne revendiquent la distinction des nations européennes, leur séparation, leur souveraineté restaurée, que pour mieux réactiver, ranimer ou raviver la peur, la haine, la xénophobie, et avec eux les antagonismes du passé, les divisions artificielles, tous ces fantasmes régressifs qui ont fait la violence de son histoire. Ni le monopole, donc, ni la dispersion. Pour autant, les deux termes de cette aporie ne sont pas exclusivement négatifs. Ils ne se contentent pas de marquer deux impossibilités. Ils dessinent en même temps, sinon une voie de dégagement, du moins la direction qui oriente la responsabilité de l'Europe comme expérience inédite. Ce vers quoi ils font signe, en effet, donne son titre à l'essai de Derrida, donc l'autre cap, entendu comme le cap de l'autre, et peut-être même l'autre du cap. Un cap qui ne serait pas seulement celui que nous identifions, calculons, décidons, mais, écrit Derrida, le cap de l'autre, devant lequel nous devons répondre, que nous devons et dont nous devons nous rappeler, le cap de l'autre étant peut-être la première condition d'une identité ou d'une identification qui ne soit pas égocentrisme destructeur de soi et de l'autre. Fin de citation. Et pourtant, il n'est pas sûr non plus que le cap de l'autre suffise à redonner du crédit à l'Europe, ou alors il convient de s'interroger au préalable sur le sens qu'on donne à ce terme sans rien précipiter. Car après tout, il se pourrait bien que le discours sur l'autre, comme la pensée de l'autre, soit aussi une des figures de l'épuisement de l'Europe que l'on rappelait en commençant. Et si la lassitude que provoque son invocation aura toujours quelque chose de suspect, si l'on pourra toujours y déceler un nouvel avatar de cet égocentrisme destructeur, il n'en demeure pas moins qu'il faut en comprendre les raisons. De quel autre parle-t-on ? De quel autre donc parle-t-on ? Voilà la question, de quel autre parle-t-on en disant qu'il engage la responsabilité de l'Europe ? Et en quoi celle-ci implique-t-elle alors une certaine articulation de l'éthique et de la politique ? Cet autre, nous le savons déjà, ne saurait se définir en termes culturels ni en termes de civilisation. L'altérité ici ne saurait être celle d'une culture, d'une langue ou d'une religion. La pensée, la circonscrire ou l'identifier de cette façon qui est toujours réductrice, reviendrait à reconduire ce que les deux volants de l'aporie ont pour objet d'écarter, le présupposé d'identités cloisonnées, étrangères les unes aux autres et potentiellement conflictuelles. Celle-là même dont les forces politiques ou religieuses hostiles à toute forme d'unité ou de rassemblement européen auront beau jeu d'exploiter les différences. Comment donc la penser autrement ? C'est là que la crise que traverse l'Europe aujourd'hui, un aujourd'hui qui n'est ni tout à fait le même ni tout à fait un autre que le sien, porte ses leçons. Car s'il y eut dans cette crise une expérience de l'altérité, comme appel d'une responsabilité, celle-ci, l'altérité, fut transversale. Elle a traversé et elle traverse encore les frontières de l'Europe, internes et externes, suscite de nouvelles solidarités, entraîne des mouvements de protestation qu'aucune forme d'appartenance, aucune allégeance culturelle, nationale, communautaire ne circonscrivent d'emblée. Cette expérience que tant de dirigeants politiques se refusent à entendre ou qu'ils minimisent avec des arguments démophobes, c'est celle d'un surcroît de vulnérabilité. Ou pour le dire encore autrement, c'est celle de la multiplication des formes d'insécurité qui ont toutes en commun de rendre la vie plus fragile. L'altérité, alors, quelle est-elle ? Certainement pas celle de peuples ou de parties de peuples, ignorants, désaffectés ou suraffectés, incapables de comprendre les grands enjeux et les grandes décisions, les contraintes qui s'imposent aux dirigeants, comme voudraient le faire croire, pour se donner du crédit, tous ceux et celles qui sont toujours promptes à minimiser de façon péjorative la vox populi. Partout en Europe, l'altérité transfrontalière, transculturelle, plurinationale, concerne ces hommes et ces femmes dont la crise aggrave de façon dramatique les conditions d'existence. Elle rassemble à l'intérieur de l'Europe, autant qu'à ses portes, les laissés pour compte, les abandonnés, les oubliés de cette histoire que l'Europe voudrait pouvoir continuer d'écrire sans eux ou malgré eux. Aussi n'est-ce pas la question de l'identité, mais celle de la singularité qui définit l'altérité. Si l'on ne veut pas se payer des mots de la politique, de l'éthique et de l'histoire, on se doit de rappeler, ce serait le commencement de la responsabilité, qu'il y va d'abord et avant tout en Europe et ailleurs, de ces millions d'hommes et de femmes auxquels sa construction, prise dans la mondialisation, ne permet plus de s'inventer ni d'exister comme des singularités. Cette impossibilité, nous nous sommes habitués à toutes ces figures qui sédimentent dans la société ce qui reste pourtant inacceptable, le chômage de masse, l'exclusion, la pauvreté. L'impasse que créent des années d'études en Grèce, en Espagne, au Portugal, en Italie et même en Allemagne, et même en France, qui ne débouche sur aucun emploi, la dépendance qui en résulte. Autre, ceux qui en font l'expérience et dont cette expérience constitue le premier visage de l'Europe, le sont avec une violence quasi insoutenable et nécessairement explosive, parce que la communauté qu'ils ont reçue en partage, cette communauté qui se voulait exemplaire, dans l'espoir et la volonté de paix et de sécurité qui en inspirait la construction, s'est retournée en insécurité. Voilà, au demeurant, ce que signifie toute dette. Elle renverse la promesse d'un héritage en une menace durable. Aussi est-ce l'impossibilité de cette invention, l'invention de la singularité dans un projet de vie déterminé qui indigne et qui révolte. Et ce n'est pas un hasard si elle touche partout ce que d'un mot qui trouve ici tout son sens, on appelle si communément la jeunesse. Et là, c'est une question que je me suis posée. Il y a eu un télescopage, effectivement, qui a été rappelé tout à l'heure. Il y avait cette nuit Jean-Paul Sartre, il y a 2 jours à l'école normale. Il y a aujourd'hui cette journée Raymond Aron. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que Sartre et Raymond Aron diraient aujourd'hui du destin de la jeunesse, aujourd'hui, en Europe, en Espagne, en Italie, en Grèce, et de façon contagieuse dans une grande partie de l'Europe ? Qu'est-ce qu'il dirait de la responsabilité de l'Europe vis-à-vis de sa jeunesse ? Cette traversée de la violence, que signifie aujourd'hui l'expérience envahissante, non seulement de toutes ces formes d'exclusion, mais au moins autant de l'impuissance des politiques européennes à faire de leur réduction la priorité efficace de leur action, prises qu'elles sont dans d'autres calculs liés les uns aux autres, sans que ce lien se traduise par la moindre amélioration du sort de ces millions d'hommes et de femmes fragilisés, c'est ce qui rend si problématique le maintien d'un crédit minimal dans la construction juridique du peuple souverain, telle qu'elle sert de fondement à la démocratie. Aussi, son véritable ennemi n'est-il pas le peuple en lui-même, car il n'a jamais été aussi peu défini. Mais cette altérité, dont elle ne sait plus endiguer la croissance explosive, l'altérité, encore une fois, de ceux et celles qui ne peuvent plus s'inventer dans ce cadre comme des singularités, c'est-à-dire faire reconnaître à ce titre et voir reconnu dans leur formation leur savoir, leur expérience, leurs années d'études ou leurs années de métier, leur intelligence, leur caractère, leurs compétences, quelque chose d'insubstituable et d'irremplaçable qui se suffise à soi-même. Bon, alors je vais même m'arrêter là parce que je m'arrête là.
Bien sûr, merci, monsieur. Trois exposés sont très différents, donc il sera difficile d'avoir un sujet commun de discussion. Est-ce qu'il y a des questions ?
La notion de charisme et charismatique est celle de prophète. Je pense à la fameuse phrase « S'il n'y a pas des prophètes nouveaux ou un retour aux anciens, le monde sera livré à une répétition, mais quelque chose de mécanique avec des jouisseurs sans cervelle, et des, etc. » Et dans charisme, charismatique, il me semble qu'on voit, il y a la figure du chef, bon, il y a Périclès, il y a le dictateur romain, mais là, on a l'impression qu'il y a quelque chose de spécialement, disons, fondé sur la personnalité et fondé sur un scepticisme, disons, sur la raison, quelque chose de Nietzschéen, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça ou pas ? Et sur Aron, il y a une chose qu'on a tous remarqué, c'est qu'à Londres, il était le plus réservé vis-à-vis des gaullistes. Il a fait le fameux article « L'ombre des Bonaparte » dont Mme Aron disait qu'il avait fait s'évanouir Maurice Schumann. D'autre part, parmi les grands intellectuels, il était presque le seul qui avait été pour le RPF. Et dans le premier livre de lui que j'ai lu, le Grand Schisme, il dit « La Quatrième République a déjà besoin d'une trêve et d'un sauveur ». Donc, il me semble que voilà, il y avait une méfiance vis-à-vis de la tradition bonapartiste, boulangiste, l'appel aux soldats, et en même temps le sentiment que, à certains moments, il y avait besoin d'un sauveur. Mais j'ai vu souvent des gens dire il y a quelque chose quand même d'inattendu. Il était le moins gaulliste à Londres et le plus gaulliste à une certaine période.
Oui, mais merci pour ces deux questions. C'est vrai que sur De Gaulle, j'ai passé assez vite, mais j'étais frappé aussi de la façon d'ailleurs, dont il revient, bien sûr, dans les mémoires sur tous ses textes, etc. Il commente, il dit parfois j'étais trop sévère, parfois pas assez, etc. Il reste quand même assez ambivalent. Et il dit cette chose assez frappante, je ne vais pas retrouver la citation, mais à propos de la Ve République, il dit que c'était, au fond, la seule chose qui lui a fait accepter cette constitution, qui est celle d'une monarchie paternaliste. C'est le fait qu'il pensait que De Gaulle était capable de sortir de la crise algérienne. Donc là, à ce moment-là, il cite un texte extrêmement, au fond, critique sur la Ve République. Et sur De Gaulle, on voit, effectivement, il y a cette oscillation permanente entre le sentiment que... Voilà, bien sûr, il a une légitimité exceptionnelle. Il y a quelque chose historiquement qui en fait celui qui un homme. Il y a aussi un article, un homme seul. Non, c'est comment c'est. Seul cet homme, un homme seul, enfin je ne sais plus, il y a un jeu comme ça où il insiste sur la solitude et sur le fait que voilà, il y a quelque chose de pénible pour un homme rationnel comme Aron, devoir se remettre entre les mains d'un personnage voilà, qui se pose dans une exceptionnalité. Et on voit bien qu'il n'aime pas tellement ça, par rapport, y compris chez Weber. Et en même temps, il y a des moments où, effectivement, il estime que c'est la seule solution, de certaine façon. Et je pense que c'est intéressant sur cette question du charisme, parce que c'est aussi ce que je voyais pour des personnages qui très différents de De Gaulle, mais enfin, comme Mandela, etc. C'est-à-dire des personnages qui ont quand même une espèce de stature qui permet de transgresser les oppositions politiques classiques, qui permet de faire passer des choses que leurs propres partisans au départ étaient vraiment fort éloignés de pouvoir accepter a priori, de pouvoir trouver des solutions éthico-politiques à des impasses et parvenir aussi à réconcilier éventuellement des frères. Ça, c'est, je pense, l'invention d'une façon de personnages comme ça qui arrivent à dépasser les... Voilà. Et alors, bien sûr, alors, prophète, le prophète prophète, c'est une des figures que cite Weber comme exemple de charisme. Bien sûr, le charisme, c'est un terme qu'il emprunte à Saint Paul, à un livre aussi d'un théologien protestant, sur ce qui avait bien mis en lumière cette tension entre le charisme et l'institution, le fait que le charisme est personnel et que du coup, c'est un grand problème. Après, comment est-ce qu'on institutionnalise, comment est-ce qu'on fonde une communauté sur quelque chose qui est personnel, comment est-ce qu'on le transmet, comment est-ce qu'on l'institutionnalise. Il y a toute la problématique weberienne du charisme de fonction. Et ça, c'est un problème qui se pose à la Ve République, je pense, très lié à un charisme exceptionnel de son fondateur. Et en même temps, ensuite, il y a un charisme de fonction qui est attaché à la place même du président. Donc, il faut un personnage charismatique, d'une certaine façon. Même un président normal doit quand même être un peu charismatique, et etc. Donc, il y a tout ce problème qui est lié au charisme de fonction. Et ensuite, oui, sur le prophète, bon, je pense que là, c'est plutôt les ambivalences de Weber, qui a toujours dit qu'il était un esprit foncièrement insensible à la musique de la religion, qui a toujours dit que voilà, la modernité était caractérisée, comme on sait bien, par à la fois la sécularisation et le désenchantement du monde, qui sont deux choses différentes, à mon avis. Et donc, on ne pouvait pas attendre de salut, on ne pouvait vraiment plus croire à des gens qui se présentaient comme des prophètes, surtout à l'université, si on est dans sa chair et qu'on se prétend prophète de la chair, comme peut-être... certains universitaires allemands, alors bon, ils visaient plutôt des pacifistes, donc ça c'est compliqué. Mais... Donc il y a une méfiance vis-à-vis du prophétisme, mais en même temps il y a le sentiment qu'effectivement un monde purement mécanisé où simplement les gens aspireraient à la jouissance sensible ou matérielle, etc., serait un monde désespérant. Donc il y a quand même ce modèle, d'une certaine façon, du puritain, du protestant, et de quelqu'un qui a une forte conviction, dont le modèle, ce que lui reproche d'ailleurs parfois Aaron, semble être quand même la conviction religieuse. Le mot de Luther, je m'en tiens là, et voilà, je ne bouge pas, et que Weber admire certainement, parce que c'est l'expression de la conviction, et en même temps, c'est quelque chose d'irrationnel, par exemple.
Oui, j'avais juste une question pour Marc Répond et Jean-Claude Menot qui concerne autant l'Europe et le charisme. Alors, Angela Merkel, dans la popularité à l'intérieur, correspond de façon très déroutante à l'absence de popularité à l'étranger. Est-ce qu'elle représente une figure qui se laisse poncer sous le signe du charisme?
C'est difficile. Bon, après, l'appréciation, bien sûr, du charisme de tel ou tel personnage politique, je pense, fait intervenir la sensibilité, etc. Et on peut considérer que, non, il me semble qu'Angela Merkel ne relève pas de la figure, en tout cas classique, du charisme, mais précisément qu'elle a quelque chose... je pense que dans les démocraties, il y a aussi l'aspiration à des personnages qui, éventuellement... rassure, etc. Finalement, même, je pense qu'on peut prendre le succès de François Hollande, était aussi un succès d'une certaine façon anti-charismatique, c'est-à-dire après des personnages un peu dont l'ego et la personnalité étaient envahissantes, saturaient les écrans, comme Nicolas Sarkozy, ou son concurrent potentiel Dominique Strauss-Kahn, qui effectivement était certainement beaucoup plus charismatique que François Hollande, mais avec tout ce que ça a d'immaîtrisable, d'inquiétant, etc. Il y a aussi éventuellement une aspiration à des formes de sang-froid, de calme. Bon, ensuite, je pense qu'Angela Merkel est quelqu'un qui joue très bien des intérêts nationaux de l'Allemagne, qui sait très bien gérer cette question de la combinaison entre égoïsme et solidarité, etc. Donc, voilà, c'est une réponse un peu de normand.
La popularité à l'extérieur est souvent un grand avantage en politique intérieure. Voilà.
Est-ce qu'il faut que je réponde pour savoir si elle est charismatique auprès des peuples et des jeunesses en Grèce, en Italie, en Espagne? Je ne suis pas vraiment sûr que la question se pose.
Oui, bonjour, Joël Mouric, chercheur associé à l'Université de Brest. Ma question s'adresse à M. Crépon. Vous avez parlé de crispation identitaire, de régression vers des fantasmes. Vous avez évoqué le déchaînement des populismes. Mais est-ce que, du coup, on ne perd pas de vue ce qu'a dit également Aaron sur la nation, quand il dit, par exemple, que l'Europe n'a jamais existé qu'en tant que nation, que la nation a une vocation, c'est une formule qu'il reprend, qu'il partage avec Gaston Fessard, la nation a une vocation, tandis que la classe n'en a pas, et il parle ailleurs du nationalisme éducateur de la nation. Alors, il faut dire, je crois qu'il s'agit d'un nationalisme libéral et que, par exemple, on trouve dans la définition aaronienne de la nation, me semble-t-il, davantage cette notion de singularité dont vous avez parlé, c'est-à-dire que les nations d'Europe sont productrices d'une culture qui sans elles ne serait pas, et je ne crois pas qu'il insiste le moins du monde sur ce qu'on appellerait aujourd'hui un aspect identitaire.
Oui, mais je ne prétendais pas dans mon exposé faire un exposé qui soit intégralement inspiré par les textes et par la pensée de Raymond, parce qu'il faudrait que je les relise et que je les retravaille. Et ceux que je relis en ce moment sont pas ceux-là, mais je n'ai pas voulu dire dans mon exposé qu'aucune forme d'attachement à une identité ou à une identité était nécessaire, au contraire. Mais ce qui m'inquiète plus, c'est l'instrumentalisation de la question de l'identité, c'est les usages qu'on en fait, c'est lorsque celle-ci implique une vision extrêmement restrictive de cette même identité, et surtout lorsqu'elle s'accompagne, comme ça me semble être le cas aujourd'hui, d'une très grande défiance à l'encontre de toute autre forme d'appartenance, en l'occurrence ici l'appartenance à la communauté européenne. C'est son côté, c'est ça que j'appelle le côté régressif et restrictif.
Oui, alors pour préciser ma pensée, je songeais en particulier aux conférences que Raymond Aron a données en 1975, et en particulier à sa conférence au Sénat, où il disait que dans la situation de crise que l'on connaissait déjà à l'époque, crise sans doute moins aiguë que celle que nous vivons actuellement, il disait que les peuples à l'époque n'étaient pas hostiles à ce qui avait été fait dans le domaine de la construction européenne, et il donnait le conseil aux politiques de déployer un art qui permette d'accomplir à l'échelle de la nation ce qui était l'intérêt national. On pourrait penser par exemple que ne pas endetter excessivement l'État, c'est l'intérêt national, et d'éviter finalement de rejeter sur une nécessité européenne ce genre de nécessité nationale.
Ah, mais je suis entièrement d'accord. Je n'ai pas voulu dire aussi que c'était l'Europe qui était responsable de la crise. Ça, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que c'est l'Europe qui était en elle-même responsable de la crise. Ce que j'ai voulu dire, c'est que l'un des effets de la crise, c'était le discrédit de l'Europe. Et c'est ce discrédit-là Mais je n'ai pas dit que les États n'étaient pas responsables de la situation dans laquelle ils se sont mis.
Madame.
Oui, c'est pour savoir, vous avez parlé de construction de l'Europe, elle existe en partie, mais à propos de l'identité, la quête d'identité ou le refus ou les luttes d'identité, est-ce que vous pouvez appliquer votre démarche à ce qui s'est passé à Chypre, et je pense en particulier à l'exposition qu'il y a eu au siège du PC, et donc par le passé et le présent, la lutte des identités à Chypre qui se font partie de l'Europe. Merci.
Alors, je ne connais pas assez bien la question et je ne me risquerai pas. Enfin, je suis toujours très, très, très prudent lorsqu'il s'agit de rentrer au-delà des éléments globaux d'analyse que j'ai donné dans une analyse si précise que ça. Mais peut-être que vous avez une idée.
Non, mais c'était votre interprétation que je voulais, moi. Enfin,
reste à remercier l'audience de son attention.